Chapitre 8. L'affût de midi. Lettre anonyme. L'homme au fusil n'était pas une vision, et certes, il aurait mérité de fixer l'attention de Paul Labre, s'il eût été possible à celui-ci de songer à quoi que ce soit au monde quand la présence d'Isole venait lui éblouir le cœur. L'homme au fusil était un fort gaillard à tête déprimée comme celle d'un batracien, et conformé de façon à ce que le derrière du crâne emportât complètement le devant. Au dire de Gall et de ses disciples, qui en ceci au moins sont d'accord, cette forme de la boîte osseuse accuse la prédominance de tous les instincts mauvais. Louveau, surnommé Troubadour et la faveur des belles, n'avait aucune prétention au titre de bienfaiteur de l'humanité. C'était une bête sauvage des alliés parisiens, un animal féroce de la plus répugnante espèce, un chien enragé tel qu'on en trouve encore quelques-uns dans la forêt de Paris et dans les marais de Londres. Les habits noirs faisaient une chasse active à ces fauves, ils les prenaient vivants et les dressaient à obéir. L'association leur mettait un collier de fer autour du cou. Une fois tombés dans le piège à loup qu'on leur avait tendu, ils tiraient comme des chevaux de fiacre pour éviter la guillotine. Louveau, dit Troubadour, était un coyatier de 10e ordre. On l'avait amené là pour tenir l'affût et tirer un coup de fusil. Le gibier devait passer sous la belle vue du fou par la route conduisant de Mortefontaine au château de Champmassé. Ce n'était pas tout. Louveau avait en outre pour mission de s'assurer qu'un jeune homme dont on lui avait donné le signalement et qui était Paul Labre se trouvait ou était venu à tout le moins à la belle vue ce jour-là. De plus, il lui fallait savoir si quelque passant, paysan ou autre, pouvait constater la présence ou le passage de Paul Labre au lieu désigné. Pour toutes ces diverses choses, on devait lui donner de quoi s'empoisonner d'eau-de-vie pendant une semaine. Méchant état. Mais ceux qui payaient Louveau si maigrement ne lui laissaient point la liberté du choix. Son collier de dogue esclave le serrait à la gorge. Quant au gibier à abattre, Louveau le connaissait. On l'avait introduit dans un enclos là-bas à Mortefontaine, tout exprès pour qu'il le pût bien voir. Louveau était un des deux intrus que Thérèse Soulas avait vu fuir au moment où Pistolet descendait de son arbre dans l'enclos de Paul Labre. L'affût devait commencer à midi. Tous les jours, de midi à 2 heures, le gibier désigné au fusil de Louveau prenait la même route pour aller de la maison de Paul Labre au château du général. Louveau, dit Troubadour, reconnut aisément Paul Labre à la description qui lui en avait été faite. C'était un premier point. En l'espace de 5 minutes, il put constater en outre que 2 personnages au moins avaient aperçu Paul Labre sur la plateforme de la belle vue du fou, le monsieur de la calèche et cette belle demoiselle qui galopait sur un cheval fleur de pêcher. Louveau ne faisait pas de zèle, cela lui suffit, et il rentra sous bois, cherchant désormais une place commode pour son affût, une place où le tir fut aisé et la retraite assurée. Ce n'était pas la partie difficile de la besogne, l'endroit était merveilleusement propre à dresser une embuscade, la rampe qui descendait de la plateforme à la route de Mortefontaine allait s'élargissant à mesure qu'on s'éloignait de l'étoile. Elle était couverte d'un taillis de châtaigniers très épais qui cachait le sol tout semé de grosses pierres. À 200 pas de la belle vue, Louveau trouva un quartier de meulière qui surplombait presque la route et derrière lequel une sente de chevreuils rejoignait tortueusement la forêt. C'était son affaire. Il ne chercha pas mieux. « Tiens, se dit-il, entendant vaguement la voix d'Isole qui adressait à Paul Labre le bizarre appel qui avait si fort étonné ce dernier, la demoiselle cause. C'est un joli brin. Ce serait dommage s'il me disait une fois de la mirer, celle-là. Faudrait le faire tout de même. » Il fourra une chique dans sa bouche, s'assit commodément et mit son fusil en travers sur ses genoux après en avoir examiné l'amorce. En ce moment, mademoiselle Isole de Champmasse passait à son bras la bride de son cheval et montait le sentier escarpé qui conduisait à la belle vue. Paul était resté à la même place, toujours immobile et le chapeau à la main. Quand Isole arriva près de lui, elle avait toujours une belle teinte rosée. C'était peut-être du trouble, peut-être était-ce la fatigue de la montée. Je vous prie, dit-elle, d'attacher mon cheval. Il se peut que nous restions longtemps ici. Paul Labre, le pauvre amoureux, et je ne serais pas surpris que certaines jolies paires de lèvres impatientes l'eussent déjà nommé l'amoureux transi, Paul Labre ne connaissait pas encore la voix de celle qu'il aimait. Il y avait dans son passé ce qu'il fallait pour faire de sa timidité native une maladie cruelle et incurable. La voix d'Isole, grave et douce, lui pénétra le cœur comme un chant, mais son étonnement dépassait de beaucoup son émotion. L'aventure commençait pour lui comme un rêve délicieux mais extravagant. Il avait peur de s'éveiller et peur aussi de trop croire. Quand il eut attaché le cheval d'une main maladroite et qu'il se retourna, il vit Isole assise au bord de la fontaine. Elle lui fit signe d'approcher, il obéit. « Asseyez-vous près de moi, lui dit-elle. » Il s'assit, elle reprit. « Je crois que vous m'aimez, monsieur Paul Labre. » Elle avait les yeux sur lui. Il releva les siens et, sous son noble regard, les paupières d'Isole se baissèrent. « Depuis que mon cœur bat, répondit-il à voix basse, je n'ai jamais aimé que vous, mademoiselle. » Elle voulut sourire. Paul lui toucha le bras. « Ne vous moquez pas, prononça-t-il, d'un accent où il y avait à la fois une supplication et un ordre. Il y a bien longtemps j'ai voulu mourir pour vous. »« Bien longtemps, répéta mademoiselle de Champmasse. Puis, retirant son bras avec une tardive réserve, elle ajouta, « Vous avez deviné, je le vois, monsieur le baron, qu'il s'agit entre nous d'une chose grave. » Paul répondit, « Je ne sais pas ce dont il s'agit. Disposez de moi, je vous appartiens. » Thérèse Soulas vous connaît, reprit Isole, qui semblait suivre une pensée nouvelle venue à la traverse de sa fantaisie. Je l'ai interrogée sur vous. Jamais elle n'a voulu me répondre. Est-ce à Paris que vous avez commencé de m'aimer? C'est à Paris et j'avais 20 ans, répliqua Paul. Ah, fit mademoiselle de Champmasse, dont le beau visage se couvrit d'un nuage. J'avais 16 ans alors. J'étais heureuse. J'étais... Elle n'acheva point et poursuivit. « Que pensez-vous de Thérèse Soulas ?»« C'est une digne et bonne femme. »« Je voudrais croire cela, » pensa tout haut Isole. Elle reprit en regardant Paul fixement. « Lui avez-vous parlé depuis qu'elle est au château de mon père ?»« Elle vient chez moi chaque jour, » répondit Paul. Isole murmura. « Quel motif a-t-elle de se cacher de moi pour une chose si simple ?» Et puis, posant à son tour sa belle main sur le bras de Paul, qui tressaillit douloureusement, elle demanda « Qui est cette jeune fille que vous avez chez vous, jeune fille ou jeune femme ?» Paul ouvrait la bouche pour répondre. Elle l'interrompit, disant avec une conviction froide « Que m'importe, je ne veux pas le savoir. Si c'est votre sœur, je l'aimerai. Si c'est votre maîtresse, on la chassera. » La physionomie de Paul Labre, mobile et expressive comme celle des enfants, laissa voir à ces mots, votre maîtresse, une surprise pénible. Rien de sévère comme l'admiration des amants. Isole comprit et sourit avec tristesse. « Est-ce que Thérèse Soulas ne vous a jamais parlé de moi ? » interrogea-t-elle brusquement. « Moi, répliqua Paul Labre, sans cesse je lui parle de vous. » « Elle a gardé mon secret, » dit mademoiselle de Champmasse, en baissant la voix encore une fois, « comme elle a gardé le vôtre. Il semble que mes paroles vous font souffrir. »« C'est vrai, avoua Paul, je vous croyais heureuse. »« Heureuse, ne dit pas toute votre pensée, monsieur le baron. »« Si fait, » répondit celui-ci d'un ton ferme, et comme s'il eût voulu arrêter un aveu, « toute ma pensée. » Leurs regards se croisèrent pour la seconde fois. Paul Labre n'était plus timide. Il prenait son rang par la fierté même qu'il imposait à mademoiselle de Champmasse, mais celle-ci refusa orgueilleusement le respect délicat et profond que la générosité de Paul lui offrait. « Notre entretien s'égarerait, monsieur le baron, » prononça-t-elle d'un ton bref et précis. « Laissez-moi, je vous prie, le conduire moi-même. » Paul s'inclina. Elle poursuivit. « Vous avez un secret comme moi, et votre secret pèse sur toute votre vie, encore comme moi. » Les mains de Paul se joignirent malgré lui. « J'ai un secret, » murmura-t-il, « un deuil, un grand deuil, mais au nom de Dieu, Isole, je tuerai celui qui me parlerait de vous, comme vous le faites vous-même. »« Cela me plaît que vous m'appeliez par mon nom, » dit mademoiselle de Champmasse. Paul Labre rougit. Il avait prononcé ce nom à son insu, et malgré lui, il y eut un silence. Le sourire d'Isole prenait une amertume douloureuse. « Personne ne vous parlera de moi comme je le fais, » murmura-t-elle si bas que Paul eut peine à l'entendre. « Personne excepté un homme. Et celui-là, si vous m'aimez, vous le réduirez au silence pour toujours. » Elle s'était redressée dans toute la richesse adorable de sa taille. Ses cheveux rejetés en arrière découvraient son beau front où le courroux creusait une ride menaçante. Ses yeux brûlaient. « Ne parlez plus, » dit-elle, « sinon pour me promettre d'obéir. Êtes-vous brave ?» Paul n'eut pas même ce sourire qu'une pareille question, tombant de la bouche d'une femme, provoque invariablement chez les gens de cœur. « Vous êtes brave, » poursuivit mademoiselle de Champmas. « J'avais deviné votre bravoure comme votre amour. Je vous connais si bien pour trop généreux que j'ai peur de vous demander l'aumône. » Paul resta encore muet. Isole reprit, troublée à son tour par ce silence et essayant de railler au hasard. « Je vous remercie de ne pas m'avoir répondu, demandez-moi ma vie, c'est du bon goût et de l'esprit. » Cela sonnait si faux dans cet entretien qui allait évidemment à une conclusion tragique qu'elle se mordit la lèvre et tourna la tête en ajoutant « Monsieur le baron, il ne faudrait pourtant pas faire de moi un personnage de comédie. Vous ne m'écoutez pas, à quoi songez-vous s'il vous plaît ?» « Je songe, répliqua Paul avec son inaltérable simplicité, que ma vie est acquise à une tâche bien sacrée et que pour ce bonheur de vous regarder de loin, j'ai commis plus d'une lâcheté. » Elle lui tendit la main d'un geste brusque et sincèrement ému cette fois. « Paul, dit-elle d'une voix contenue mais distincte, je vous jure que je vous aimerai. » Paul était pâle comme pour mourir. « Celui qui vous a offensé, balbutia-t-il, l'aimez-vous encore ?»« Je le hais. Je suis jaloux, » dit Paul, qui retira sa main, « jaloux de votre haine. »« Et pourquoi ne vous aimerais-je pas ? » s'écria-t-elle avec une soudaine violence. « Vous êtes beau, vous êtes la beauté même, je n'ai jamais vu d'homme si beau que vous. Vous êtes bon, vous êtes noble, il y a en vous des délicatesses qui me rabaissent et que j'admire. » La pensée de Paul l'interrompit en s'échappant malgré lui de ses lèvres. « Pourquoi me parlez-vous ainsi ? » murmura-t-il. Elle saisit sa main qu'elle porta jusqu'à sa bouche en un mouvement de folie. « Je vous adorerai, » fit-elle au lieu de répondre, « ou je me tuerai. » Le cœur de Paul se gonflait dans sa poitrine. Des larmes lui vinrent aux yeux. « Écoutez, » reprit-elle, emporté par un irrésistible élan. « Je l'ai souvent pensé, je l'ai dit souvent, dans l'amertume de mon désespoir. Je ne puis pas être la femme d'un honnête homme. Un honnête homme n'est qu'un homme, mais votre femme à vous, Paul, oh, je n'oserais. Il n'est rien que ne puisse relever et sanctifier le contact de votre belle âme. » Paul se laissa glisser à deux genoux. « Si vous m'aimez, dit-il en couvrant ses mains de baisers, nous serons sauvés tous les deux. » Et pourquoi tendrais-je d'exprimer avec des paroles ce qui se passe en moi? Mon cœur est un livre où vous lisez, et vous voyez à travers ma poitrine cette joie du ciel qui me noie et qui m'enivre. Vous sentez la fièvre profonde qui me fait vivre toute une existence dans la minute présente. Isole, je n'ai jamais été heureux. Isole, chaque fibre de mon être tressaille au choc d'une volupté inconnue. Un souffle m'abattait, et il me semble que je vaincrais 10 hommes. Je vous vois plus belle que les anges, et mon allégresse va jusqu'à la souffrance. Y a-t-il des prédestinés pour trouver la mort dans cet océan de délices ? Isole aimée, Isole adorée. » La bouche de mademoiselle de Champmas s'abaissa jusqu'à ses lèvres blêmies. « Je suis à toi, » dit-elle dans un baiser, « je veux être à toi. » Puis, anéantissant elle-même l'extase qu'elle avait fait naître, « Levez-vous, monsieur le baron, » reprit-elle, « vous êtes à moi, puisque je vous appartiens. J'étais une enfant, une heureuse et pure enfant. Mon père m'aimait, Dieu me souriait. Je regardais sans crainte au fond de ma conscience. Cet homme vint. Je ne sais pas si je l'aimais, je le crois. Je m'en accuse. Mais ce que j'aimais en lui, ce n'était pas lui. Mes yeux crédules furent éblouis. L'enfance écoute les contes de fées. Il me promit que je serais reine. » « Reine ? » répéta Paul, étonné. Il était roi, ou du moins fils de roi. Je le voyais travailler à la délivrance de mon père, prisonnier. Pourrais-je dire quelle ambition folle aveugla ma raison ? Je fus coupable. Et savez-vous ce que voulait cet homme, ce roi, ce lâche et impitoyable malfaiteur? Il voulait la fortune de mon père. Pour l'avoir, cette fortune, il s'était d'abord assuré de moi. Ensuite, il devait tuer mon père, et il a assassiné ma sœur. » La voix d'Isolde s'étranglait dans sa gorge. Elle râlait. « Où est cet homme ?» demanda Paul, à qui l'excès de l'émotion rendait comme toujours sa froide apparence. Isolde répondit, « Pendant 3 ans, je l'ai cherché. Voilà 4 semaines que je l'ai trouvé. C'était un soir, dans le salon de Madame la Comtesse de Clare, notre voisine et ma parente. Je suis sûr de l'avoir reconnu, bien qu'il portât un déguisement. Depuis 4 semaines, mes courses en forêt ont eu un but. Je sais où est sa demeure. » Et je sais aussi qu'il joue encore dans ce pays quelques lugubres et sanglantes comédies. Les actes d'un pareil homme sont du ressort de la justice, commença Paul. Mademoiselle de Champmas le rendit muet d'un regard. Les jeunes filles sont imprudentes, murmura-t-elle. J'ai écrit. Si cet homme va devant un tribunal, je mourrai déshonoré. Paul se leva et reprit son fusil qu'il jeta sur son épaule. Il n'ira pas en justice, dit-il. Isolde l'entoura dans ses bras. « On ne se bat pas avec un scélérat, murmura-t-elle. Vous m'avez comprise. » Paul Labre demanda pour la seconde fois, « Où est cet homme ?»« Venez, répondit Mademoiselle de Champmas, vous êtes aimée. » Elle n'acheva pas. Un coup de feu retentit à 200 pas de la belle vue du fou sous le couvert. Isolde et Paul prêtèrent l'oreille et entendirent au-dessous d'eux un bruit confus de feuilles et de branches froissées, comme si un sanglier eût percé droit devant soi à travers du fourré. L'idée ne vint même pas à Paul Labre et à Mademoiselle de Champmas qu'un crime pouvait avoir été commis auprès d'eux. La route de Mortefontaine se cachait derrière les taillis de châtaigniers à partir de l'étoile même. De la plateforme, on n'apercevait point la partie du chemin dominée par la roche au pied de laquelle Louveau, dit Troubadour, s'était posté en embuscade. Aucun cri, aucune plainte n'avait suivi le coup de feu, et le bruit bien connu du sanglier perçant le fourré éloignait toute supposition, ne se rapportant point au braconnage. « J'ai vu le gaillard qui se tient ainsi à l'affût en plein midi, » murmura Paul. « Il n'est pas du pays et n'a pas bonne mine. » Isolde avait le pied à l'étrier. Elle écoutait encore d'un air indécis et inquiet. « Ne serait-ce point sur nous qu'on a tiré ?» pensa-t-elle tout haut. Et avant que Paul Labre pût répondre, elle ajouta, « Monsieur le baron, le seul fait d'avoir été vu avec moi vous créerait de mortels ennuis. »« Mademoiselle, répliqua Paul, non point à cause de moi, mais à cause de vous, nous devons nous séparer ici. Vous m'avez confié votre vengeance et aussi le soin de votre sûreté, car il ressort de vos paroles qu'une menace pèse sur vous. J'espère que votre confiance ira jusqu'à me laisser le choix des moyens à prendre pour vous faire libre et venger. Soyez prudent, dit Mademoiselle de Champmas, qui mit son doigt sur sa bouche souriante. Songez que vous ne vous appartenez plus. Je songe que je ne saurais payer à trop haut prix les seuls instants de vraie joie que j'ai eus dans ma vie. Vous m'en avez assez dit pour qu'il soit superflu de m'indiquer ma route. Il s'agit de l'homme qui dirige la conspiration. Il s'agit du maître du château neuf, en effet. Vous êtes seul, il est entouré d'une armée. Retournez chez votre père, Isolde. J'ai hâte de vous dire mon secret comme vous m'avez donné le vôtre. Demain, à cette même heure, revenez au lieu où nous sommes. Je vous apporterai votre vengeance et votre liberté. « Que comptez-vous faire ? » demanda Mademoiselle de Champmas, qui se mit en selle. « Dites-les-moi, je vous en prie. »« Je ne suis pas un bien grand seigneur, » répondit Paul, « mais mon père était soldat et gentilhomme. Il n'y a pas de façon de tuer un homme. » Il baisa la main d'Isolde et s'éloigna à grands pas, en perçant à travers bois. Isolde resta un instant pensive à écouter le bruit de sa marche. « Il est beau, il est bon, » dit-elle enfin, « et comme il m'aime. » Sa cravache effleura le garrot de son joli cheval, qui se mit à descendre au pas la pente escarpée. « Oh » reprit-elle, « je l'aimerais. Hop ! Amour, je veux l'aimer, je le veux. » Amour dansa sur place et ne voulut point se lancer. Il avait ce joli nom, le cheval fleur de pêcher de Mademoiselle de Champmas. Et pourtant, pensa encore Isolde, ce n'était pas un chevalier errant que je cherchais, mais bien un séide. « J'ai peur de sa perfection. Il est sans défaut, comme le pieux aîné. J'aurais préféré... Oh, l'autre me fait trembler. » Amour prit le petit galop parce qu'on arrivait au bas de la montée. Isolde avait du rouge aux joues. Elle fit volter son cheval pour enfiler la route de Mortefontaine et dit « Il n'est pas permis d'être fille d'Ève à ce point-là. Je veux l'aimer, je l'aimerai. Nous irons loin d'ici, bien loin, et je naîtrai à une nouvelle vie. » Ce dernier mot finit en un petit cri de surprise. Sur la route de Mortefontaine, un homme venait à pied, la tête penchée sur une lettre qu'il paraissait lire attentivement. D'un coup d'œil, Isole avait reconnu le général de Champmas, son père. Elle fit volter une seconde fois Amour et se lança à pleine course dans une allée qui conduisait sous le bois. Au bout de 2 minutes et au premier détour de l'allée, Amour se cabra, effrayé par un homme qui était assis par terre, au bord du chemin, essuyant avec un soin minutieux la cheminée de son fusil et l'intérieur de son canon. « Est-ce vous qui avez tiré ici près, l'ami ?» demanda Isole en s'arrêtant. « Ici près où ?» questionna l'homme au lieu de répondre. Mademoiselle de Champmas regardait de côté sa méchante mine et ses bras velus, tout chargés de tatouages, car c'était bien Louveau, dit Troubadour, marqué comme un mouchoir, pour ne pas qu'on le perde, selon l'expression de notre ami Pistolet. « Sous la belle vue du fou, » expliqua Isole. « Non fait, » repartit l'homme, « est-ce qu'on a tiré de ce côté-là ? Je n'ai pas entendu, je suis dur d'oreille. »« Et qu'avez-vous tué ?»« Bredouille, ma belle jeune dame, à ces heures-ci, les bêtes se méfient. La femme et les enfants auront bon crier la faim ce soir à la maison. » Isole lui jeta une pièce d'argent et passa. Le troubadour empocha l'aumône et continua de nettoyer le fusil qui venait de tuer la mère d'Isole. À 500 pas de là commençait le parc du château Neuf-Gorée. Isole ralentit le pas de sa monture. En approchant d'une ouverture à claire-voie qui regardait la campagne, elle dit « Doucement, Amour !»« Présent, Bébel !» fit une voix derrière la grille. « Avons-nous enfin armé notre chevalier ?»« Il va le provoquer en duel, » répondit Isole sans s'arrêter. « Imbécile, je l'ai vu grimper la route qui mène au château. Il faut que j'assiste à cette scène-là et que je vous revoie avant ce soir, Bébel. »« Je reviendrai, » dit mademoiselle de Champmas. « J'ai besoin de vous parler. Je l'aime. » Un large éclat de rire se fit entendre derrière la claire-voie. Les gaietés de monsieur Lecoq étaient toujours bruyantes. Thérèse Soulas était couchée en travers de la route de Mortefontaine, juste sous la roche où Louveau avait tenu l'affût. Celui-ci, tirant à une 20aine de pas tout au plus, l'avait littéralement foudroyée. Elle était tombée dans la poussière sans pousser un cri. Le général de Champmas, qui montait la route à pas lents, se dirigeant vers l'étoile, n'aurait eu désormais qu'à lever la tête pour la voir. Il n'était pas séparé d'elle par une distance de plus de 30 toises, mais le général était complètement absorbé par la lecture d'une lettre qu'il tenait à la main. Cette lettre, il l'avait trouvée au château en revenant de sa promenade. Elle était datée de Paris et portait le timbre du bureau de poste de la préfecture. Elle n'avait point de signature. D'ordinaire, les gens de sens droit et de bon cœur, comme était le général de Champmas, méprisent les lettres anonymes. Mais celle-ci, paraîtrait-il, était une lettre anonyme d'espèce particulière, car c'était bien la 10e fois que le général la lisait. La première fois qu'il l'avait lue, c'était dans sa chambre à coucher. Au lieu de se déboter, il était sorti précipitamment pour gagner l'appartement de Thérèse Soulas. Thérèse Soulas n'était point chez elle. Le général avait demandé mademoiselle de Champmas, qui était également absente. Il avait alors quitté le château et pris la campagne, en donnant l'ordre au domestique de prier Madame Soulas de l'attendre si elle rentrait avant lui. Tout en marchant, il reçut la lettre qui était ainsi conçue. « Une personne qui a beaucoup connu et fréquenté le général comte de Champmas à Paris, lors de l'affaire du complot carlo-républicain, a l'avantage de le prévenir qu'il a été à cette époque, lui, monsieur de Champmas, la dupe et la victime d'une audacieuse machine de police. » Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que, dans toute cette histoire, la police était jouée sous jambes, aussi bien que monsieur de Champmas lui-même, par une association de malfaiteurs assez avantageusement connue dans la capitale. La police manœuvrait dans l'intérêt de quelques personnages haut placés qui avaient besoin d'une petite panique, mais en réalité, elle tirait les marrons du feu pour messieurs les H.N. qui avaient envie d'être les héritiers du général. Un agent de Vidocq, qui donna dès son début des preuves de singulier sang-froid, le nommé P.L., Il porte maintenant un titre de baron, et le général le connaît de reste, fut chargé du rôle principal dans cette intrigue. On ne fait même pas allusion ici à l'arrestation du général, opérée par ce même P.L., qui était ici dans l'exercice de ses fonctions. On parle surtout de l'évasion favorisée par les H.N., et dont le résultat devait être le meurtre du général, lequel ne dut son salut qu'au hasard, aidé par le dévouement de la femme T.S., qui avait ses raisons pour se montrer dévouée. Trois assassins attendaient le général derrière la porte où le nom de Gautron était tracé à la craie jaune. Voici l'histoire ancienne à laquelle on ne veut ajouter qu'un détail. P.L. était l'amant de la fille de T.S. qui devenait l'héritière unique du général par la disparition de sa jeune sœur. Le général ici doit comprendre à demi-mot. La moitié seulement du plan réussit. Le général évita le piège, mais sa plus jeune fille, sa fille légitime, fut enlevée. Par qui ? Par P.L., bien entendu. Voici maintenant l'histoire moderne. La femme T.S. fut chargée de garder la jeune Suavita, devenue muette et presque idiote, à la suite de la frayeur qu'elle éprouva la nuit de l'enlèvement. Ces deux circonstances expliqueront au général comment on a pu isoler la pauvre enfant. Personne ne s'étonne en voyant séquestrer les infirmes ou les fous. Elle est infirme et folle. La femme T.S. n'a jamais maltraité Suavita de Champmas, mais l'intérêt de sa fille faisait d'elle une sévère sentinelle. Aucun étranger ne pénètre chez P.L., qui habite maintenant la maison de feu sa tante à Mortefontaine. Les gens qui s'y connaissent prétendent qu'il faut toujours cacher un objet le plus près possible de celui qui le cherche. Le général comte de Champmas demeure à une lieue de sa fille, de sa vraie fille, de sa seule fille, car le général semble n'avoir plus rien dans le cœur pour l'autre, si digne de sa mère et si indigne de lui. La personne qui prend la peine d'adresser ce billet au général le fait dans une bonne intention d'abord, et ensuite pour rendre à P.L. la monnaie de sa pièce. Les H.N. ne sont plus dans cette affaire-là, que P.L. a prise à son compte en abandonnant ses anciens associés. Les H.N. sont aussi loin du général que P.L. en est rapproché. C'est au général qu'il appartient d'agir. Le général aura des renseignements précis et complets auprès de la femme T.S. Voilà pourquoi P.L. joue ici double jeu, comme toujours, pensant avec raison que la fille légitime à l'user sera meilleur teint que la fille légitimée, il a abandonné Isole pour cette pauvre petite Suavita. Il est temps. P.L. se défie déjà de la femme T.S. Or, quand quelqu'un le gêne, à bon entendeur, salut. Il y avait un post-scriptum ainsi conçu. Il est temps, je le répète, étant donné le caractère de P.L., les heures de la femme T.S. sont comptées. Le général, à la lecture de cette lettre, avait été frappé vivement et profondément. Cependant, il ne croyait pas. Il n'osait pas croire à ce bonheur inespéré, l'existence de sa plus jeune fille perdue depuis 3 ans. La lettre disait vrai. Tout ce qu'il y avait d'amour paternel en son cœur s'était reporté sur Suavita. Isole lui inspirait un sentiment malaisé à définir, où des restes de tendresse passionnée ne pouvaient vaincre une instinctive et plus profonde répulsion. Il ne pouvait pas croire non plus aux accusations violentes portées contre Paul Labre. Il se souvenait avec une sorte d'admiration de cet adolescent intrépide et si fort au-dessus de son douloureux état, qui autrefois avait dédaigné l'usage de ses armes dans la maison de la rue des Prouvaires. Tout cela devait être une fable inventée à plaisir, ou une manœuvre dont l'auteur de la lettre n'avait même pas pris le soin de dissimuler la source. On y parlait en effet clairement des habits noirs, et le général savait depuis longtemps que les conjurés de la rue des Prouvaires avaient été le jouet des habits noirs, lesquels s'étaient emparés du complot pour le vendre et préparer en même temps cette fameuse évasion qui devait ouvrir sa propre succession à lui, monsieur de Champmas. La lettre en somme était parsemée de choses vraies, et toute la partie de la lettre qui dénonçait la conduite hésitante de Thérèse Soulas était vraisemblable. Si impur que fût l'origine de ces renseignements, et si douteux qu'ils puissent paraître, il valait assurément la peine d'être éclairci. C'était pour les éclaircir que le général comte de Champmas se dirigeait vers Mortefontaine en étudiant chaque phrase du message anonyme, et son travail mental arrivait toujours à cette conclusion « Il faut interroger Thérèse. Thérèse seule peut me donner le mot de cette énigme. Je la crois reconnaissante et bonne, mais eût-elle toutes les duplicités de son sexe, je saurais bien lui arracher la vérité. » Et il allait reprenant sa laborieuse lecture. Une large goutte d'eau, la première de l'orage, tomba bruyamment sur le papier déplié, tandis qu'une rafale soulevait en tourbillon la poussière des chemins. Le général leva les yeux, mais son regard n'alla point jusqu'aux nuées menaçantes qui déjà roulaient au-dessus de sa tête. Son regard s'arrêta à quelques pas devant lui, sur un objet dont l'aspect le changea en statue. La pensée d'un assassinat avait traversé son esprit. Il eut cette vision, polâbre, debout, avec son fusil en bandoulière, au sommet de la plateforme. Il l'avait vu. Depuis lors, une heure à peine s'était écoulée. Il froissa la lettre. « C'est impossible, dit-il, révolté contre le soupçon qui grandissait en lui. C'est impossible et insensé. Thérèse, appela-t-il encore. » Il avança. La mère d'Isole était tombée à la renverse, et le derrière de sa tête avait fait un trou dans le sable. La pluie d'orage, fouettant déjà à torrents, faisait ruisseler ses cheveux gris le long de ses tempes décolorées. Monsieur de Champmas lui tâta le cœur, mais sa main tremblait trop. Sa main rencontra, en se retirant, un bouchon de papier noirci et à demi brûlé, une bourre. On avait dû tirer de près. Le trou de la balle était non loin de la bourre, au côté gauche de la poitrine. Il n'épandait point de sang. Le général saisit Thérèse dans ses bras et l'emporta, sous l'ouragan qui faisait rage, jusqu'à une cabane de bûcherons, située à un quart de lieue de Mortefontaine, vers la lisière de la forêt. Quand il déposa son fardeau sur le pauvre lit, il crut entendre un soupir. Les nuages accumulés faisaient presque la nuit dans la cabane. Un homme était assis au coin du foyer, le dos tourné à la lumière. « Thérèse, dit le général, m'entendez-vous ? » L'homme allumait sa pipe à l'aide d'un charbon. Le charbon tomba. Dans l'ombre, une main froide toucha faiblement la main du général. « Le nom de votre assassin, Thérèse ! » s'écria celui-ci. « Tâche !» grommela l'homme, qui ramassa son charbon tranquillement. La main glacée de Thérèse attira M. de Champmas, qui mit son oreille tout contre la bouche de la mourante. Elle fit un suprême effort pour parler. Le général distingua un mot et un nom. « Pardon, suavita. » Puis, dans un déchirant soupir, un autre nom qui s'exhala comme une prière. « Isole. »« Paul Labre, interrompit le général. Au nom de Dieu, dites-moi la vérité. Est-ce Paul Labre ?» L'homme écoutait curieusement, l'homme du foyer. La main de Thérèse eut une courte convulsion, puis se détendit. Thérèse était morte. Le général, agenouillé, écarta ses cheveux gris et la baisa au front, disant « Quoi que vous ayez fait, je vous pardonne. » Puis il se releva et s'élança au dehors. L'homme quitta le foyer. C'était Louveau, dit Troubadour, qui gagna la porte en grommelant « Paraît que c'est ce monsieur Paul Labre qui est là pour payer la loi. Moi, je ne lui en voulais pas à cette femme-là. » Mais j'aime mieux me mouiller que de rester seul avec elle, pour ne pas mettre de ça. » En quelques minutes, le général eut atteint la maison de M. le baron d'Arcis. Il sonna. Le domestique lui répondit que le baron était absent. Le général, montrant ses vêtements trempés par l'averse, réclama l'hospitalité que nul ne refuse. Le domestique, honteux et sentant le besoin d'une explication, dit « Monsieur le baron est bon comme le bon pain tout de même, quoi, mais il mène son logis comme il veut. Quand on a quelque chose à garder, on se ferme. » Et il poussa la porte. Le général se dirigea vers la mairie, où il fit sa déclaration du meurtre de Thérèse Soulas. 20 fois le nom de Paul Labre vint sur ses lèvres, il ne le prononça point. Il entra à l'église du village, il pria et rêva longtemps seul dans la pauvre nef. Il pensait... J'entrerai dans cette maison murée. Contient-elle le bonheur de ma vie ou mon dernier deuil? Et ce jeune homme, l'épreuve s'amoncelle contre lui, c'est l'évidence. Pourquoi y a-t-il en moi une voix qui me crie « Celui-là ne peut pas être un criminel ».